bonjour, vous écoutez le fil du fer sur Radio FM Plus 91 FM. L'enregistrement de la conversation se fait dans un appartement marseillais. Mes invités, Jean-Paul Brigelli et Françoise Guichard, amis depuis 25 ans, l'une et l'autre ont la cuisine, le professorat, le rugby, la littérature au cœur. Aujourd'hui, l'un et l'autre se racontent au travers de leur parcours dans l'écriture et la lecture, jusqu'à faire de ces deux activités travail de romancier et de critique littéraire et cinématographique. Autrement dit, comment devenir et être soi en écrivant et prescrivant. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Françoise, quand on a comme vous un père qui a rejoint le maquis de René Char durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a bien connu, qu'ils ont ensemble, je l'imagine, discuté de littérature et de poèmes, est-ce que la poésie devient un espace d'écriture qui vous est comme interdit ?
Alors, bon, d'abord, ils n'ont pas discuté de littérature et de poèmes pour deux raisons. D'abord que papa, bon, qui était un élève de l'école normale d'Avignon, puis ensuite du lycée d'Avignon, puisque le pétainisme ayant supprimé les écoles normales, les normaliens avaient été envoyés dans les lycées publics, ce qui a permis à papa de se retrouver avec des professeurs absolument fabuleux au lycée d'Avignon. Mais pour lui, le nom de... D'abord, il ne savait pas que c'était René Char. C'était le capitaine Alexandre, il ne savait pas quel était son nom. Et bon, il se disait que c'était un écrivain parisien, bon, tête de l'écrivain parisien, et surtout accent de l'écrivain parisien, n'est-ce pas, qui avait quand même gardé toute sa vie un accent du Vaucluse extrêmement prononcé. D'autre part, non, il ne parlait pas de littérature. Là, c'était vraiment... Alors, René Char était un chef de maquis extrêmement respectueux de la vie de ses hommes. Papa était agent de liaison, donc en fait, il transportait des courriers, des choses comme ça, clandestinement. Mais les discussions n'étaient pas des discussions littéraires. Ça, c'est quand on est comme ça dans l'action, même si on n'est pas forcément au feu, et c'est vrai que René Char s'est toujours débrouillé pour faire en sorte que ses troupes ne soient pas en danger, mais les discussions littéraires, non, il n'y en avait pas.
Et votre rapport avec la poésie ?
Alors mon rapport avec la poésie, bon, c'est vrai que... comment dire, jeune, je pense que comme tous les adolescents, j'ai eu l'âme poétique, j'en ai lu beaucoup, j'en ai écrit un peu, c'était évidemment très très mauvais. Maintenant, je dois dire à ma grande honte qu'il m'arrive rarement de lire de la poésie, lapsus intéressant, de lire de la poésie, que je connais très mal la poésie contemporaine actuelle. Et que, bon, alors je replonge toujours avec le même bonheur sur les poètes, j'allais dire patrimoniaux, même si à l'époque ils ne l'étaient pas. Mais là, je suis assez nul, disons-le hardiment, pour ne pas dire totalement nul, dans la production poétique contemporaine. Pour vous dire, le dernier recueil de poèmes que j'ai lu, c'était l'année dernière, c'était au moment de la panthéonisation de Manoukian. C'était les poèmes de Manoukian en édition bilingue, l'arménien d'un côté, c'est un très bel alphabet, ça fait un bel objet libre, et la traduction française en face. Et d'ailleurs, c'est un très bel exemple d'innutrition, parce qu'on voit très bien que Manoukian, et d'ailleurs qui avait traduit ces poèmes-là en arménien, avait lu Rimbaud, avait lu Baudelaire, et les poésies de Manoukian sont vraiment innutries au sens du XVIe siècle, de ces grands poètes français qui ont été en quelque sorte un modèle, même s'il l'a écrit en arménien. Et pour en revenir à ce que disait Jean-Paul dans une autre émission, effectivement, ben on écrit à partir de ce qu'on a lu. Et Manoukian écrit ses poèmes à partir de Rimbaud et Baudelaire parce qu'il les a lus.
Alors venons-en à la lecture. Vous êtes enfant et adolescent, tous les deux. Vous avez soit un frère plus jeune, soit une plus jeune sœur que vous. Vos parents vous laissent libre accès aux livres de leur librairie, Françoise, je ne sais si c'est le cas pour votre frère, à ceux de leur bibliothèque pour vous, Jean-Paul, je ne sais si votre sœur a elle aussi reçu la même autorisation. Est-ce que cela signifie que, aux yeux d'adultes et d'éducateurs lettrés, la lecture n'est pas dangereuse pour la progéniture? Pour être plus précis, vous, les aînés de la fratrie, est-ce que l'on a pensé que ce n'était pas dangereux, mais au contraire, une ouverture?
Ah bah forcément, quand on est libraire, si on pense que la lecture est dangereuse, il vaut mieux changer de métier, hein. Je crois. Pour en venir à mon jeune frère, lui, c'était un musicien très doué, donc lui, c'est les disques qu'il prenait. Avec d'ailleurs la même règle, c'est-à-dire, c'était l'époque des 33 tours, hein, donc tu prends tous les disques que tu veux, si tu les abîmes, si tu les rayes, tu les payes. Chacun a puisé dans ce magasin, qui était quand même une caverne d'Ali Baba, pour des enfants et des adolescents. Hein, tous les livres et tous les disques qu'il a voulu, sans aucun interdit, les parents pensant que ça soit le livre ou le disque, ne pouvait que faire du bien à nos petites cervelles.
Jean-Paul, dangereux ou pas ?
Toutes les lectures sont dangereuses. Enfin, ça c'est un principe. On le sait très bien, puisque actuellement, grâce à des réformes très intelligentes, on s'est débrouillé pour que les élèves ne lisent plus, ce qui ne les rend plus dangereux. Voilà, ça c'est un principe. Autrement, si je vais revenir un petit peu sur ce que Françoise disait de René Char, pendant 4 ans de guerre, il n'a écrit aucun poème. En tout cas, il n'en a publié aucun. Et effectivement, je pense qu'il avait fait une dissociation très nette entre la plume et la mitraillette. C'était le temps de la mitraillette, pendant que certains poètes institutionnels, Aragon, Éluard, etc., écrivaient l'honneur des poètes, bla bla bla, lui était dans l'action. Véritablement l'action. Il vaut mieux tuer 10 Allemands que publier 10 livres quand on est en guerre. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'avais très peu de livres quand j'étais gamin parce qu'on n'avait pas un sou et que les livres, ça coûte la peau des fesses, en un sens. Donc, je lisais, je vivais en grande partie chez mes grands-parents parce que mes parents bossaient, donc j'avais 5-6 ans, etc. J'avais appris à lire tout seul, je ne sais pas comment. Voilà. Il n'y a jamais eu d'études sérieuses sur comment apprennent à lire les enfants qui lisent tout seuls. Le premier bouquin que j'ai lu, c'était dans l'ancienne bibliothèque verte, un bouquin qu'avait mon grand-père, qui était Les Trois Mousquetaires. Alors, c'était une édition très légèrement expurgée, mais à peine. Hein, y avait quelques références à une maîtresse possible, etc., qui avait sauté. Enfin, voilà, chez Hachette, ils étaient assez pudibonds à l'époque. Et c'est le premier livre que j'ai lu, véritablement, dont j'avais 7 ans, à peu près. C'est drôle, quand j'y pense, actuellement, je fais des romans historiques, c'est-à-dire que je retombe en enfance, hein, littéralement.
Nous en reparlerons. Oui.
Bon, et alors, à partir de Dumas, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Mon grand-père était un bibliomane frénétique, il n'avait pas fait d'études, etc. Il avait décidé de lire tous les livres de poche par ordre de numéro. On dirait un peu l'autodidacte dans la nausée, vous savez, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai lu Pierre Benoît, parce que l'Atlantide devait être dans le numéro 1. Voilà. Un certain nombre de choses comme ça. Puis, mon père a repris ses études. Il n'avait pas le bac, etc. Il était flic, etc. Il a passé un concours d'entrée en fac pour non-bachelier. Il a fini prof de fac et président d'université. Tout était possible à l'époque. Hein. Donc là, on a commencé à acheter des livres. Je me souviens de disputes homériques entre mes parents, mais homériques. Hein. Ma mère lui reprochant de dépenser de l'argent à acheter des livres et lui lui reprochant de dépenser de l'argent à acheter des produits de maquillage. Chacun ses armes, en un sens. Donc, j'ai commencé à lire tout ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque parentale. Pour vous donner une idée, à 10 ans, je suis tombé... Alors, quand il était flic, il travaillait donc à ce qu'on appelle l'évêché à Marseille, hein, à la grande maison Poulaga, et il avait raflé les livres qui avaient été raflés par la police parce qu'interdits. Donc j'avais par exemple l'intégrale de l'édition Jean-Jacques Pauvert 1954 des œuvres de Sade. Ça m'a passionné à 10 ans. Bien entendu, c'est le côté philosophique qui me passionnait.
Franchement, on n'en doute pas.
Voilà. Saad, j'ai toujours une édition numérotée de Histoire d'eau dans la première édition Pauvert, justement, etc. C'était un bonheur de raconter ça à Dominique Horry lorsque je l'ai connu 40 ans plus tard. Voilà, donc j'ai lu à peu près tout ce qui me tombait sous la main. De temps en temps, mon père me disait, tiens, lis ça. 8 ans, j'ai lu Le Rouge et le Noir. J'ai eu à choisir ce choix absolument terrible qui saisit tous les lecteurs de Rouge et le Noir, Mathilde ou Madame de Rênal. Bon, voilà, moi c'est Mathilde. Et donc je suis devenu un lecteur frénétique. Pareil, vers 10-11 ans, j'ai lu l'intégralité de Ian Fleming et j'ai donc commencé à écrire du Ian Fleming à ma manière. Hein. Boum boum et bruit de zip. Mais à part ça, pour répondre à la question que vous m'avez pas encore posée sur la poésie, ça m'a toujours passionné. J'ai commencé à 7-8 ans à peu près, j'ai récupéré un bouquin de lecture de mon père quand il était élève et j'ai appris par cœur un certain nombre de poèmes de Hugo que je peux encore vous réciter là, il n'y a pas de problème. Le mariage de Roland par exemple, comme ça, je l'ai appris à 7 ans, je le récitais dans les repas de famille parce que j'étais devenu un peu moins un phénomène
Et alors, comme ça ?
Ils se battent, combat terrible, corps à corps, voilà, j'ai longtemps que leurs chevaux sont morts. Enfin, voilà. Alors, de Hugo, je suis passé à Baudelaire. De Baudelaire, je suis passé à Rimbaud. Entre-temps, il y a eu une grande période Éluard. Et à chaque fois, je faisais des à la manière de... Alors, bien entendu, je faisais du sous-Baudelaire, du sous-Rimbaud, du sous-Éluard, etc. Vers 16 ans à peu près, j'ai été à faire du sous-Saint-Jean-de-Perse. Voilà. Je ne veux pas dire que... Et puis il y a eu Francis Ponge vers 17-18 ans qui m'a beaucoup occupé. Je publie d'ailleurs toujours, de temps en temps, sur mon blog, des à la manière de Ponge, Baudelaire, etc. Je fais un à la manière de Racine, Polisson, etc. Parce que je suis sûr que Racine était très Polisson. On n'a jamais retrouvé les poèmes érotiques de Racine, parce que sa maison a brûlé. Mais... je suis sûr qu'il y en avait. Voilà, et j'en lis toujours. J'ai fait des articles pour Marianne.fr sur des recueils tout à fait récents. Je ne vais pas dire que j'aime tout, hein, parce que ce serait idiot, c'est comme pour les romans, on n'aime pas tout. Mais il y a quelque chose qui se suit. J'ai eu... Sans compter que j'ai rien contre les formes traditionnelles. J'ai été ami intime avec un très grand cancérologue qui était Lucien Israël, et son éditeur lui demandait un autre bouquin sur la cancérologie, parce que ça marchait bien, ça. Elle dit « D'accord, mais vous éditez mes poèmes ». Et on a appris ainsi que Lucien Israël, éminent cancérologue, faisait de très beaux poèmes en alexandrin, mais vraiment bien, hein, voilà, qu'il a donc publié aux frais de l'éditeur, c'était la prime en quelque sorte, en échange d'un beau bouquin sur comment va marcher la chimiothérapie demain.
T'es là. Alors Françoise, comme Jean-Paul a répondu à la question que je n'avais pas encore posée, je vais vous la poser à vous.
Oui.
Donc, vous m'avez parlé des frères Karamazov de Dostoïevski, roman lu
entre
vos 13...
Ah oui, ça a été la claque, ça. Ça a été la claque. J'avais 13 ou 14 ans, je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, peut-être le hasard du farfouillage dans les rayons, parce qu'il n'y a pas spécialement de Russes dans la famille, ce n'est pas du tout notre culture. Donc Ah si, voyez, maintenant, ça me revient. Il y avait eu une adaptation télé par Claude Santelli des frères Karamazov avec Pierre Brasseur qui jouait le rôle du vieux, terrible père Karamazov Et c'est ça qui m'a donné envie de lire le bouquin. Et là, je me suis pris une baffe, mais alors vraiment pas possible. Je sais que je suis pas... Bon, dans, j'ai toujours, je sais que c'est une sale manie, lu plusieurs livres de front. C'est rare que je lise un seul livre en même temps.
Pourquoi
mais là,
est-ce une sale manie
Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve, qui trouvent ça pas très sérieux de lire plein de choses. C'est de la, comment dirais-je, de la polygamie littéraire. Mais alors là, celui-là, je suis pas arrivée à m'en défaire avant la fin, quoi. J'ai pris une claque pas possible.
Vous avez parlé d'effets indescriptibles.
Oui.
Et est-ce qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas racontable, partageable ?
Non, parce que c'est des. Quand on est comme ça, enfin, on est choqué, quoi. Et pourtant, j'en avais lu aussi à 13 ans des livres avant. Hein, mais une chose comme ça, c'est un monument, quoi. On peut pas. On a même du mal à analyser soi-même l'impact que ça a sur vous. Des choses comme les diables d'Ivan Karamazov, par exemple, cet épisode absolument, absolument insensé.
Et pour aussi, vous m'avez cité Au-dessus du volcan de Malcolm Lowry.
Au-dessous. Ah oui, Malcolm Lowry, pareil, là, c'est autre claque. Alors, j'étais tombée dessus totalement par hasard, là encore, en farfouillant dans la librairie, je vois ça. Bon, c'était avant l'adaptation filmique de John Huston, que c'est venu plus tard. Là encore, c'est l'avantage d'avoir des maîtres de rayonnage dans la librairie familiale. Donc, je suis tombée dessus totalement par hasard. Et là, pareil, quoi. Alors après, en plus, j'ai lu l'histoire du roman, de l'écriture du roman, qui est en elle-même assez incroyable. Lowry a perdu son manuscrit, il a été obligé de le réécrire. Au moment de la traduction, il y avait plusieurs traducteurs, dont Valérie Larbaud. Ben voilà un poète que j'aime beaucoup, tiens, Valérie Larbaud. Au moment de la traduction, ben, grosso modo, il fallait être à côté de lui, au moment de la traduction française, pour essayer de l'empêcher de picoler, qui garde quand même encore un petit peu de conscience. Enfin bref, que ça soit le livre ou toute la mythologie qu'il y a autour et qui, à la limite, vaudrait un autre livre. Ça aussi, ça fait partie des grandes claques qu'on se prend quand on est lecteur.
Nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, Françoise, vous avez choisi de faire écouter les Rolling Stones, Honky Tonk Women, et nous l'écoutons. Vous écoutez Radio FM+, 91 FM, Françoise Guichard et Jean-Paul Brighelli sont au micro du Fil du Fer. L'une et l'autre se racontent au travers de leur parcours dans l'écriture, la lecture et leur activité de critique littéraire et cinématographique. Autrement dit, comment devenir et être soi en lisant, écrivant et prescrivant. Donc, Françoise, vous m'avez dit... Aujourd'hui, les élèves ne peuvent plus lire après une page. Ce sont vos anciennes élèves de classe préparatoire littéraire qui, devenus à leur tour professeurs, vous remontent cette information du terrain. Vous m'avez aussi dit que les personnes qui n'aiment pas lire les romans ont une incapacité à se projeter sur une autre personne que soi, que ces personnes sont submergées par leurs propres problèmes ou qu'elles pensent que leur propre vie suffit. Je reprends le titre d'un livre d'un penseur anarchiste et protestant que j'aime beaucoup, Jacques Ellul, « La parole humiliée ». La parole est-elle humiliée dans notre monde de la technique, de l'image, du texto, du sexto, selon vous, Françoise puis Jean-Paul ?
Alors, c'est même pas qu'elle est humiliée, c'est qu'elle est ignorée. C'est encore pire. Si elle était humiliée encore, on humilie quelqu'un ou quelque chose parce que on ne l'aime pas, parce qu'on lui en veut, parce qu'on a une revanche à prendre, parce qu'on a envie de lui péter la gueule, passez-moi l'expression. Alors que là, non, c'est même pas de l'humiliation, ça serait trop bien. On humilie quelqu'un parce qu'il existe et qu'on voudrait qu'il n'existe plus. Alors que là, on l'ignore. Il n'y a qu'à voir les tags sur les murs, ça ne veut rien dire. Allez, je vais jouer la vieille noix. Mais de mon temps, quand on écrivait sur les murs, on écrivait paix au Vietnam, on écrivait libérer nos camarades, etc., etc. Alors certes, ça dégueulassait le mur, pareil, mais au moins, il y avait du sens. Bon. Quand on chantait des choses, bon, des trucs tout cons, mais certes, mais avec des paroles. Et de la mélodie et de la rythmique, pas du rap, qui est quand même, grosso modo, l'équivalent musical, si j'ose dire, du dégueulis. Voilà. Donc, en fait, c'est pas que la parole est humiliée, c'est qu'elle est ignorée. On est dans quelque chose qui est l'infralangage. Et moi, c'est ça. Alors là, vraiment, ça me terrorise. Alors, pour en revenir première partie de votre question, c'est-à-dire la lecture, je pense que, en entendant mes anciens élèves qui ont commis l'erreur de devenir professeurs de lettres, si la majorité de leurs élèves n'arrivent pas à lire, c'est parce qu'ils sont trop sur leur téléphone à scroller, sur les réseaux sociaux ou autre chose d'ailleurs, et que du coup, leur capacité d'attention en est gravement compromise. Tout ce qui est diagnostiqué maintenant chez les enfants comme trouble de l'attention, etc., je pense que ça tient largement à cette addiction qu'ils ont dès leur plus jeune âge au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Et là, je voudrais rendre hommage à un grand penseur, Eric Cantona, bon, un footballeur, mais qui est un peu exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où il explique qu'il a interdit absolument à ses enfants d'utiliser leur téléphone portable, et que d'ailleurs, ils n'ont pas de téléphone portable. Et l'intervieweuse dit, mais comment faites-vous? Comment vous débrouillez-vous? Etc. Et Cantona dit, ben, j'ai dit non. Bon, alors vous imaginez, non, avec la voix de Cantona, ça je ne sais pas faire. J'ai dit non, point, barre. Voilà, tu es ferme, tu dis non. Bon, et je crois que là vraiment, on est en train de partir dans des choses qui... Là, c'est au niveau du cerveau, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Cette incapacité à se concentrer, parce qu'on est tout le temps à scroller, à zapper sur son portable. Effectivement, un sujet, un commentaire de texte qui fait une page, bah, ils ont du mal, quoi.
Pour reprendre ce que disait Jacques Ellul, le problème, c'est ce qu'est exactement la parole. La parole n'est pas le bavardage. La parole n'est pas le babil. La parole n'est pas le bruit. Or, nous sommes actuellement dans un monde de bruit, effectivement de bruit indistinct. Hein. Je veux dire, ce que chante Aya Nakamura n'est qu'une espèce de bruit dégueulé, etc. Bon, ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais ça vient essentiellement du fait qu'on n'aura pas appris à parler. Je suis sidéré, par exemple, par un très grand nombre de nouveaux acteurs français qui parlent à toute allure et sans articuler, qui n'ont manifestement jamais appris à articuler parce qu'ils entendent le bruit dans leur tête, ça leur paraît séduisant. On est dans une opération narcisso-masturbatoire et ils se disent bah, « je vais le restituer comme ça ». Bon, voilà, à l'arrivée, on a Léa Seydoux et quelques autres, c'est-à-dire le degré zéro de l'actrice. Je préfère encore en revenir à Greta Garbo.
Françoise, vous avez écrit et achevé un seul et unique roman, dites-moi si je me trompe, qui n'a pas été publié.
Ben non.
L'éditeur qui le lut trouva qu'il était bon. Il ajouta « Votre livre ne se vendra pas, je ne le publierai pas ». J'aimerais que vous présentiez et racontiez ce roman qui existe et est comme un fantôme parce qu'une maison d'édition ne l'imprima pas et n'en fit pas un livre.
Oui, mais moi, j'en ai pas fait une maladie non plus. Hein. Bon, c'est vrai que là, je voudrais pas apparaître comme l'autrice frustrée qui me dit « il m'a pas publié ». Bon, ce monsieur a eu la gentillesse de me téléphoner en me disant « écoutez, voilà, moi, ça m'est bien plu, j'ai bien ri, je me suis régalée, mais je ne publierai pas parce que ça se vendra pas ». Bon, au moins, c'était honnête. Alors, autrement, bah, j'ai pas envie de raconter non plus, non pas au cas où un jour, par miracle, ça serait publié, vu qu'il est dans mon tiroir et qu'il n'en sortira pas. Mais disons que c'était une histoire assez fantaisiste, avec des fantômes, avec des amours tordus, et avec à l'arrivée un magnifique crime dans un hôpital où la criminelle est déguisée en clown et profite d'une intervention du rire médecin pour se faufiler dans l'hôpital et débrancher l'homme qui l'a trahi depuis sa plus tendre enfance. Bon, donc c'était totalement déjanté. Moi, je me suis bien amusée à l'écrire. L'éditeur qui l'a lu s'est bien amusé en le lisant, mais manifestement, ça rentrait pas dans les clous. Mais je veux dire, j'en ai pas fait une maladie. J'ai mis dans mon tiroir, et puis voilà. Je me suis dit bon, ben, ça va, je suis pas faite pour ça. Je crois que c'est pas la peine de m'obstiner. Moi, je trouve absolument admirable les gens qui arrivent et qui me racontent ah ben voilà, ça fait 25 fois que j'envoie un roman à un éditeur et à la 25e fois je suis publiée. Bon ben chapeau. T'es teigneux, tu t'obstines, etc. Moi, c'est vrai que c'est un gros défaut que j'ai, mais je m'obstine pas. Bon, ça passe du premier coup, ça casse. Je crois que je vous avais dit d'ailleurs, la grecque, bon, je l'ai passé, je l'ai eu du premier coup, mais c'est clair que si je ne l'avais pas eu, je ne l'aurais pas repassé. Ça, c'est un gros défaut que j'ai, mais comment dire, il y a des marathoniens et il y a des sprinters, et c'est vrai que moi, je manque de. J'aurais jamais fait une bonne marathonienne, bon, indépendamment du fait que physiquement, j'ai pas vraiment le profil, mais psychologiquement non plus. Moi, je ne m'obstine pas, soit je réussis, soit je banane. Et si je banane, je me dis bon bah ça va, tu vas faire autre chose. Mais si t'as banané, c'est que c'est pas ton truc. Donc tu tournes la page et tu fais autre chose. Tu te contentes de ce que tu sais faire, c'est-à-dire d'enseigner. Mais voilà. Autrement, vous savez, on ressemble à cette milliardaire américaine Florence Foster Jenkins qui tenait à tout prix à chanter alors qu'elle chantait comme une casserole. Et bon, vous allez sur YouTube, vous tapez Reine de la nuit Florence Foster Jenkins, vous prenez un grand moment de rigolade parce qu'elle chantait, mais je n'exagère pas, vraiment comme une casserole. Mais bon, voilà, je ne veux pas être la Florence Foster Jenkins de la littérature.
Jean-Paul, pour prolonger. Qu'est-ce qu'un refus ou la signature d'un contrat d'édition bouleverse dans votre désir d'écrire et votre écriture même, le style, le genre, le sujet ? Est-ce que c'est moralement inhibant et validant dans votre propre vie ?
Alors, on va reprendre des exemples connus. J.K. Rowling a eu 11 refus. Le 12e a eu le jackpot. Il faut pas oublier que les éditeurs sont des êtres humains comme les autres et qui vivent dans l'instant. Ils vivent pas forcément dans l'instant suivant. J.K. Rowling avait senti, je suis un grand admirateur de Harry Potter, il faut pas croire, d'autant que ça a donné le goût de la lecture à une petite frange de gosses qui se sont tapés les histoires du petit sorcier, ce qui fait quelques milliers de pages quand même. Voilà, je dis ça aux profs qui sont persuadés que leurs élèves sont incapables de lire plus de 4 pages d'affilée. Hein. Salut les mecs. Mais il y a des bouquins qu'on m'a refusés. J'ai une dizaine de livres tout faits dans la machine qui, si je les rouvre, ne méritent pas d'être publiés parce que je les ai écrits en un sens pour moi, et sans poser la question de à qui le vendre. Ce qui est la question que l'éditeur va se poser prioritairement. Il peut trouver, lui, parce qu'il est cultivé, etc., du plaisir à lire un bouquin, et savoir en même temps qu'il y aura 200 lecteurs à tout casser. Hein. Et le seuil de rentabilité d'un livre en France, c'est 3000 exemplaires. Voilà, il faut le savoir. Hein. Et 3000 exemplaires, croyez-moi, ça se trouve pas comme ça, parce qu'on vous parle constamment de best-sellers, 500 000 exemplaires, bla bla bla, mais la moyenne, elle est beaucoup plus basse, elle est aux alentours de 800. À 800, on boit le bouillon. Hein. En fait, un éditeur vous sort 30 bouquins dans l'année, il espère que 2 vont marcher et vont payer les 28 autres. C'est comme ça que ça fonctionne. De surcroît, il y a des exemples célèbres. Hein. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 500 exemplaires. Il a dit lui-même, toute mon ambition se résume à être lu vers 1930. au lieu de 1830. Et il a assez bien réussi son coup, hein, de ce point de vue-là. Il avait tellement d'avance sur le roman de son temps, il y avait un côté tellement second degré dans ses héros que le lecteur romantique de base qui voulait s'émouvoir comme il s'était ému sur Lamartine, blablabla, était très décontenancé. Hein. Il a fallu que Mérimée, qui était son ami intime, le persuade que c'était vraiment bien. Et puis, il a d'ailleurs écrit à partir de 40, 45 ans. Hein. C'est tous ceux qui écrivent, moi, j'ai eu un nombre incroyable d'élèves, disant, ah, monsieur, j'ai écrit quelque chose, un recueil de poèmes, des romans, alors que je lisais. Et j'essayais de ne pas être trop méchant, mais 9 fois sur 10, c'était des histoires d'adolescents boutonneux qui grattaient leurs boutons. Et c'est moyennement glamour. Voilà, c'est voir les choses posément. Et il y a très très peu, très très peu d'auteurs jeunes qui ont réussi jeunes. Radiguet, hein, Sagan, et encore Sagan. Je ne sais pas si vous savez, c'est une erreur de copiste. L'éditeur avait dit, bon d'accord, allez, c'est pas inintéressant, bonjour tristesse, hein. On va le tirer à 7000 exemplaires. Et la secrétaire qui a tapé la note à l'intention de l'imprimeur a tapé 70 000. Et ils sont retrouvés avec une masse de papier imprimé absolument colossale, et là ils se sont dit, bon, on va inventer Sagan. Mais tout le monde n'a pas ce genre d'occasion. Par ailleurs, elle le méritait amplement, c'est un très bon roman, et tout Sagan, d'ailleurs, est très intéressant. On en dit beaucoup de mal pour des raisons qui, je veux dire, m'échappent un peu. Je pense que c'est beaucoup trop intelligent pour l'ère actuelle. Hein, voilà. Donc, ça m'a jamais gêné qu'on me refuse un bouquin, j'en fais un autre. Voilà, ça c'est. Et puis, au moment où on accepte un bouquin, bon, très bien, mais j'ai pas une dilatation cardiaque immédiate, quoi. Ça c'est ce qui est plus intéressant, c'est de le vendre, c'est-à-dire d'avoir des lecteurs avec qui vous en parlerez, etc. Le tout premier roman que j'ai publié, ça date de 95 ou 96. C'était un roman érotique, particulièrement érotique. Et j'avais commencé moi-même par me dire, oh là là, c'est nul. Puis je l'ai réécrit en 24 heures. Je l'ai envoyé à un éditeur, non pas sous mon nom, mais sous un nom d'emprunt, avec une identité d'emprunt, une personne d'emprunt. C'était une opération très calculée. Et la vraie satisfaction, ça a été quand j'ai reçu plein de courriers disant « Ah, il fallait que ce soit une femme qui écrivait ça, c'était signé d'un patronyme féminin, parce qu'un homme ne peut pas comprendre ce genre de choses. » J'en ris encore.
Jean-Paul, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous structurez et essayez, si c'est ainsi que vous faites, durant la période qui précède, l'écriture d'un de vos textes, d'un de vos romans? Vous devez bientôt remettre le second tome des aventures de Pierre Domelas. Pierre Domelas ou Domelas, moi je mets le S.
Ça sera plutôt les aventures de Balthazar Herrero. Pierre Domelas, il file le parfait amour, elle va accoucher, etc. Mais l'autre, c'est un vrai héros plébéien.
D'accord, je lirai votre livre quand il sera en poche, comme je vous l'ai dit. Donc, le héros de ce héros de votre dernière fiction publiée aux éditions L'Archipel est bientôt trouvable en poche, je le redis. C'est le héros fougueux, comme il se doit pour le genre littéraire dans lequel il agit, du roman de Cape et d'Épée, du roman historique Soleil Noir. Parlez-nous de votre travail de fabrication pour la série centrée donc sur ce personnage, Herrero, ainsi que pour le roman noir pur porc, titré Viande froide, etc.
Eh bien, je suis parti de ce que je connaissais, C'est un conseil que je donne à tous les apprentis écrivains. Hein. Parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Parlez des décors que vous connaissez. Donc, je vivais à l'époque, hein, parce que ça remonte très loin, hein, je vivais dans l'Hérault. J'étais à côté de Pézenas. Le roman commence à Pézenas. Commence dans le milieu des Cévennes protestantes. Et il faut automatiquement, vous dites, il faut une situation de crise. C'est comme dans les tragédies, hein. Dans les tragédies, quand ça commence, c'est que ça vient de merder, grave. Voilà. Et que, à la fin de la journée, ça merdera encore plus grave. Bon. Sauf fin heureuse. Donc, je me suis dit, Pézenas, les Cévennes, il me faut une crise, 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Voilà. Pourquoi ensuite, là il y avait des choses que je savais quand même, hein, pourquoi le roi a d'un seul coup décidé de jeter aux orties l'édit passé par son grand-père? Parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Pourquoi pensait-il qu'il allait mourir? Il avait une maladie mortelle, voilà, mortelle, dont personne ne se remettait à l'époque. Et sa nouvelle épouse, Madame de Maintenon, dite la veuve Scarron, qui confite en dévotion, enfin, une horreur, lui a dit, « Sire, mon chéri, il faut arriver devant Dieu avec un présent. Et ce présent, ça va être la mise au ban de la France d'un million de protestants. Alors, on a fait mezzo-mezzo, on en a tué 500 000, on en a poussé 500 000 sur les routes de l'exil vers la Suisse et la Hollande. Et par ailleurs, je connaissais à fond le XVIIe siècle. Hein, 17e et 18e, c'est ma zone d'élection. Je savais qu'on était dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Donc, j'ai eu un plaisir fou à décrire les champs couverts de neige au mois de mai. Voilà, les paysans qui crèvent la dalle, les épidémies, etc. Et au milieu, quelques coups d'épée qui mettent de la lumière au milieu de la nuit. Voilà, ça le principe. Sur ce, comme j'ai étudié les structures romanesques avec Prop, etc., les grands structuralistes russes, je savais qu'il me fallait un héros qui distribue des coups d'épée, mais qu'il lui fallait un pendant intellectuel. Et ce pendant intellectuel, je suis allé le chercher, c'est pas très compliqué, hein. Une partie de ma famille s'appelle Fabre. Je suis moitié corse, moitié catalan. Fabre, c'est faber en latin, spécifiquement, c'est l'artisan, mais spécifiquement, c'est le forgeron. Et ce sont très souvent les noms qu'ont pris les morts chassés d'Espagne par Isabelle la Catholique, etc., parce qu'ils étaient effectivement forgerons. Allez à Tolède et vous verrez que les lames de Tolède, c'était pas de la plaisanterie. Alors, il y avait une raison pour ça, c'est qu'ils avaient transmis l'héritage des lames de Syrie, les fameuses lames damassées, vous savez, dans lesquelles, en fait, il y a de l'acier et il y a de l'iridium. Tout ça venait, c'est très ancien, hein, tout ça venait de produits qui arrivaient de d'Inde, d'Iran, etc. Les Vikings faisaient la même chose. Il y a des lames vikings extraordinaires faites avec des minerais récoltés en Iran. Je ne sais pas si vous imaginez le périple pour des Vikings pour aller se chercher. Voilà. Donc, il fallait forcément quelqu'un qui soit un transfuge de race, hein, en quelque sorte, un nouveau français. Et alors, il n'est pas forgeron comme son père, il est médecin. Et comme on est dans le sud, il a fait des études à Montpellier, qui à l'époque était la fac de médecine. Il y avait deux facs de médecine en Europe qui étaient Montpellier et Pise. Les autres étaient très loin derrière. Montpellier, par exemple, on savait que le sang circulait dans l'organisme. À Paris, ils ne voulaient pas le savoir. À Montpellier, on savait que la pratique de la saignée était d'une intense bêtise.
Et donc, nous venons d'écouter Le Fil du Fer avec Françoise Guichard et Jean-Paul Brigelli.